pour vous existe à prix Leclerc. Modalités et magasins participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, bougez plus. Renault.
Découvrez la nouvelle génération Renault. Découvrez Renault 5 E-Tech électrique fabriqué en France dès 160 euros par mois avec 5 740 euros de prime gouvernementale coup de pouce. Pendant les portes ouvertes du 15 au 19 janvier, 2 mois de loyer offert.
R5 Evolution 120 chevaux hors option. LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 2700 euros. Prime maximum, certes énergie déduite, si accordiaque. Troisième et quatrième loyer offert. Offre à particulier du 15 au 19 janvier. Conditions Renault.fr. Pensez à covoiturer. Renault.
Europe 1, il est 15h. Les informations, Émilie Dez. Bonjour Émilie.
Bonjour Romain, bonjour à tous. Sébastien Lecornu a rencontré Emmanuel Macron ce matin. Il prendra la parole en fin d'après-midi. Le Premier ministre qui s'est donné jusqu'à mardi pour arracher un compromis sur le budget 2026. Sébastien Lecornu qui a promis de généraliser dans le budget final les repas universitaires à 1 euro, une demande spécifique du PS. Le gouvernement a acté l'impossibilité d'aller jusqu'au vote. Il faudra donc passer par le 49-3 ou les ordonnances. Nous avons des saboteurs à l'Assemblée, a affirmé ce matin la ministre des Comptes publics. Elle cible la France insoumise et le Rassemblement national. Les débats sont suspendus à l'Assemblée. Ils doivent reprendre mardi. Son mari dénonce une injustice violente. La Cour de cassation confirme la prescription du meurtre de Marie-Thérèse Bonfanti, résolue 36 ans après sa disparition. Yves Chatin, qui avait avoué en 2022 avoir étranglé la jeune femme, ne sera pas poursuivi. Marie-Thérèse Bonfanti avait été portée disparue en 1986 en Isère. Une enquête administrative a été ouverte après le suicide d'une lycéenne de 17 ans en Seine-et-Marne. Elle était, selon sa famille, victime de harcèlement scolaire depuis décembre. L'adolescente a été mortellement percutée par un train RER mardi. Elle s'est volontairement donné la mort. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées hier devant le lycée Balzac de Mitry-Mory où elle était scolarisée. C'est une information Europe 1. Deux lycéens de 16 et 17 ans ont été interpellés et placés en garde à vue après des tirs de mortier d'artifice dans la salle de classe d'un lycée d'Atis-Mons en Essonne. Aucun élève n'a été blessé. Une enquête a été ouverte. Les Européens sont déterminés à défendre leur souveraineté. L'envoi de militaires au Groenland vise à envoyer un signal à tout le monde, y compris aux États-Unis, explique la ministre française déléguée aux armées. Le Danemark répète qu'il est hors de question que les États-Unis acquièrent le territoire arctique. Le déploiement de troupes au Groenland n'a aucun impact sur l'objectif de Donald Trump, répond la Maison-Blanche. Il n'y aura aucune impunité pour les auteurs de la répression en Iran. La promesse du ministre français des Affaires étrangères, l'Union européenne doit prendre des sanctions à leur encontre. La répression a fait plus de 3000 morts, 20 000 selon certaines sources. L'Ukraine va devoir augmenter ses importations d'énergie à cause des bombardements russes. Volodymyr Zelensky veut décréter un état d'urgence. Les frappes russes causent régulièrement des coupures de courant et de chauffage alors que les températures sont glaciales dans le pays. Et puis près d'un Français sur quatre est à découvert dès le 18 du mois, selon une étude du comparateur Les Furets. L'an dernier, c'était à partir du 16, un recul de 2 jours à relativiser, puisque le pourcentage de Français qui sont à découvert tous les mois ou presque augmente. Les jeunes et les locataires sont les plus concernés.
Europe 1.
Il est 15h03 sur Europe 1. Et si on en parlait, c'est maintenant.
Merci Émilie Dez. On vous retrouve dans une demi-heure pour d'autres infos. À tout à l'heure.
Marie-Estelle Dupont.
15h, 16h sur Europe 1.
Romain Desarbres.
Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1 pour Et si on en parlait avec vous, Marie-Estelle Dupont. Bonjour Marie-Estelle.
Bonjour Romain.
Votre regard de psychologue clinicienne sur l'actualité à retrouver chaque jour sur Europe 1 entre 15h et 16h et en podcast sur l'application Europe 1 et sur le site Europe 1. Vous pouvez nous appeler évidemment 01 80 20 39 21, appel non surtaxé. De quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va parler de la vocation, ce vers quoi le destin semble nous appeler. Certains rencontrent la vocation très jeune, certains très tardivement, certains jamais. On en parle aujourd'hui avec vous, Marie-Estelle Dupont.
Oui, la vocation appelle et nous dit-on en crise. Encore une crise. Alors plutôt que de parler de crise avec tout ce que cela a d'angoissant et d'inéluctable, il me semble intéressant de parler d'une transformation profonde du rapport au travail, non seulement de l'organisation du travail, bien sûr, mais aussi de la quête de sens que nous y plaçons. Évidemment, la société de consommation qui s'est désincarnée avec la numérisation et l'automatisation, c'est Difficile de parler à un être humain pour réserver un billet d'avion ou payer ses courses. La bureaucratisation de nombreux métiers humains, qui en a détourné peut-être le sens premier. Les formes de management infantilisantes qui ont fleuri depuis les années 90 ont une responsabilité importante dans ce qu'on appelle la crise des vocations chez les enseignants, les infirmiers, les artisans, les maires de petites bourgades. Mais on assiste aussi à un désir accru que le travail ait du sens, pas seulement pour qu'il nous donne une place dans le corps social et nous permette d'assumer une famille, mais véritablement un épanouissement intérieur. Alors si les listes officielles de métiers en tension s'allongent chaque année, plus de 80 secteurs rien qu'en France, des centaines de milliers de postes restent désespérément vacants, une immense partie des actifs, et surtout les 20-35 ans, déclarent vouloir avant tout un métier qui fait sens, aligné sur leurs valeurs, utile au monde, épanouissant. On veut moins un statut social, une carrière stable ou rentable, qu'une réponse existentielle. Mais la vocation professionnelle n'est pas toujours une évidence fulgurante découverte à 16 ans. Je crois qu'en 2026, le défi que nous avons peut-être à relever pour la génération qui arrive est de redonner au mot « métier » sa noblesse ancienne, un savoir-faire mis au service de quelque chose de plus grand que soi, sans prendre les vessies des influenceurs bling-bling pour des lanternes d'accomplissement personnel. Narcisse au travail est un être malheureux, me semble-t-il, un Stakhanov virtuel qui condamne nos enfants à se sentir frustrés dans la normalité de l'effort à consentir pour progresser. Encore faudra-t-il pour cela que nous sachions nous protéger de l'intelligence artificielle, qui est surtout artificielle, puisque l'intelligence est une caractéristique du vivant. Alors oui, chers auditeurs d'Europe 1, certains métiers vont disparaître, mais est-ce que cela ne doit pas nous inviter à sauver précisément la créativité et l'imaginaire de nos enfants, puisque quoi qu'il arrive, leur productivité stricte sera toujours avantageusement remplacée par des machines? Pour en parler, je reçois Sabine Van Vlanderen Badinter.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être avec nous.
Merci de me recevoir, je suis ravie d'être là.
Bonjour Sabine Van Vlanderen Badinter, merci
Bonjour.
Beaucoup d'être là.
Bonjour Romain.
Délégué général de la Fondation de la Vocation, Marcel Bleustein-Blanchet, vous allez nous en parler. Marie-Estelle Dupont, vous avez dit beaucoup de choses dans votre édito. Évidemment, on va commencer déjà par définir la vocation. Est-ce que la vocation, c'est uniquement la vocation religieuse, la vocation pour être médecin, pour être professeur, enseignant? Qu'est-ce que vous en dites?
Vocare, hein, en latin, ça veut dire appelé. Hein, donc, on se sent appelé. Dans la vocation, il y a quelque chose qui m'arrive, en fait, que je ne décide pas le premier moment de la vocation. C'est presque une découverte, c'est presque une rencontre avec un appel à l'intérieur de soi. C'est vrai dans la vocation religieuse, c'est vrai dans la vocation de médecin, c'est vrai. Mais en réalité, la vocation nécessite toujours un temps de discernement. Et on le voit particulièrement chez les séminaristes. On leur demande de faire la part entre la véritable vocation, le véritable appel spirituel, et puis peut-être des conditionnements familiaux, des traumas pas réglés qui feraient qu'il y aurait quelque chose de rassurant à s'extraire de la compétition, de l'entreprise, par exemple, ou des liens familiaux. Donc la vocation, c'est aussi un travail de discernement de quelle est ma place, qu'est-ce que j'ai à apporter au collectif. Et cette question de la place, finalement, je crois que elle se fait sentir particulièrement chez nos adolescents à qui on demande beaucoup trop tôt de s'orienter. Alors qu'ils n'ont que les matières scolaires qu'ils étudient et une très faible connaissance du monde du travail. On leur demande déjà de choisir des options, etc. Alors que finalement, ils n'ont pas encore, eux, discerné ce à quoi ils se sentent appelés. Alors à 10 ans, un tel, parce qu'il a eu un accident de vélo et qu'il s'est bien entendu avec le médecin qui l'a soigné, veut être chirurgien parce qu'il trouve que c'est fantastique ce qu'il a fait. Moi, à 11 ans, je voulais être psychologue. Donc, je dirais que certains d'entre nous avons la chance de ressentir très clairement quelque chose assez jeune. Ça ne veut pas dire que ceux qui ne vivent pas ça n'ont pas une vocation. Ça va peut-être leur demander juste un peu plus de temps de la découvrir. C'est peut-être parfois d'ailleurs une épreuve un peu plus tardive dans la vie qui va leur permettre de la découvrir, et ça va donner lieu à une reconversion professionnelle. Et je crois que la question de la vocation, elle est d'autant plus d'actualité qu'aujourd'hui, on sent que la nouvelle génération, elle veut un travail qui ait du sens et qui soit une fin en soi, non pas au sens de faire carrière est une fin en soi, mais au sens où ce que je fais doit être en axe avec mes valeurs, ça doit contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique ou à des valeurs humanistes, alors que peut-être il y a une ou deux générations, c'était vraiment cantonné à la question du statut social. Donc il fallait un statut social, il fallait faire vivre sa famille, mais le travail restait un moyen, parfois un rôle dans lequel on s'enfermait parce qu'on échouait sur le plan familial, et c'était rassurant. Aujourd'hui, c'est un peu différent. La question du sens du travail est vraiment au cœur des questionnements des jeunes générations. Alors, Sabine von Vlaanderen Badinter, vous êtes déléguée générale de la Fondation des Vocations. Est-ce que vous pouvez rappeler aux auditeurs d'Europe 1 quelle est la vocation justement de cette fondation, et puis surtout le contexte magnifique et tragique à la fois dans lequel
la fondation est née. Alors, vous l'avez dit, c'est la Fondation de la Vocation Marcel Bessin-Blanchet, du nom de son fondateur, qui est le fondateur par ailleurs de Publicis aussi. Il est né vraiment dans son histoire personnelle. Il avait donc fondé Publicis, qu'il a perdu pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est à ce moment-là, en rejoignant l'Angleterre, qu'il est fait prisonnier dans les Pyrénées et où il reste pendant quelques mois. Et lui, qui en fait avait été en rupture familiale, ses parents et ses oncles vendaient des meubles. Il était allé voir son père en lui disant qu'il allait prendre un autre chemin et qu'il était appelé, lui, par la réclame et la publicité, ce qui avait créé, on va dire, une petite crise au sein de la famille. Mais il en avait tiré une telle joie de vivre qu'il s'est dit, au moment où il était prisonnier, si je sors vivant de ce moment vraiment compliqué et tragique de ma vie, je ferai un jour quelque chose pour un jeune. Donc quand il revient, il reprend les rênes de l'entreprise qu'il avait dû laisser. Et en 59, il décide de réunir un jury de personnalités vraiment d'exception, en leur disant, voilà, je vais avoir besoin de vous, non pas pour de l'argent dans un premier temps, ça vient après avec de nombreux mécènes qui se sont associés à l'aventure, mais pour venir m'aider à sélectionner et à donner leur chance à des jeunes qui ont une vocation profondément ancrée, quel que soit le domaine d'activité. Je rappelle que nous soutenons toutes les vocations hors politique et religieuse, avec un principe fondamental qui est de ne pas mettre d'hiérarchie entre les métiers. Donc les métiers manuels, scientifiques et autres se valent tous. Et voilà, on va les accompagner de deux manières, par un prix d'abord doté financièrement pour leur permettre de franchir une étape vraiment critique face à laquelle ils sont, et puis ensuite pour créer, et c'était je pense assez novateur à l'époque, l'idée d'un réseau d'entraide. C'est-à-dire que la vocation, elle a besoin aussi d'être soutenue, d'être appréciée, regardée et accompagnée. Mmh. Et pour ça, quand il y a un réseau de personnes qui se constituent autour de vous et qui vous encouragent année après année, et qui vous aide à franchir des étapes dans votre vie professionnelle, c'est vraiment un atout extrêmement précieux, et c'est ce qui est donc c'est ce qui s'est attelé à faire.
En fait, il y avait des corporations autrefois, et quelque part, vous recréez ce maillage.
Exactement.
Au sein d'un même corps de métier, avec des aînés qui transmettent aussi peut-être des clés,
aînés qui
des
transmettent,
conseils.
Et puis aujourd'hui, des membres du jury, des mécènes, etc., et des amis de la Fondation qui constituent en fait un vivier de personnes qui sont des accélérateurs de parcours, qui vont pouvoir aider et accompagner.
Offrir des expériences professionnelles, par exemple.
Oui, ça peut être ça. Ça peut être trouver des stages, trouver du travail, donner des conseils, et puis être entendu aussi. Je pense que quand on a une vocation, on peut, vous le disiez tout à l'heure, les jeunes, en fait, quand vous demandez à un enfant quel métier as-tu envie d'exercer, en général, il a une réponse. Très spontané. Et plus le temps passe, plus la situation se complique, parce que la vie se greffe à ça, l'environnement social, l'environnement culturel, et qui vient petit à petit parfois étouffer ses vocations.
Projeter des choses.
Exactement. Et donc, en fait, nous, notre souhait permanent, c'est de faire en sorte que ces vocations naissantes, parfois fragiles, ne s'éteignent pas. Parce qu'on est persuadé que quelqu'un qui a reçu ou vit cet appel un peu irrésistible dont il ne peut pas se détourner, c'est une richesse absolument précieuse pour une société, et ce sont des jeunes qui ensuite ont des vies professionnelles très satisfaisantes, réjouissantes, et qui, comme le disait Marcel, exerçaient leur métier dans la joie de vivre. Mmh. Et c'est ça en fait qu'on va chercher, et on espère ne pas se priver de tous ces talents qui ne comptent pas les heures, qui sont extrêmement motivés et passionnés, et donc des vrais vecteurs, on va dire, de sens aussi pour les autres.
Oui.
Et donc des figures d'inspiration pour beaucoup d'autres derrière.
Oui, l'idée, c'est si ce rêve est à l'intérieur de toi, c'est que tu es le seul à pouvoir le réaliser.
Exactement.
Donc écoute-le.
Exactement.
Mais je crois que c'est très important ce que vous dites sur l'écoute, c'est-à-dire que quand on a une vocation, ça veut dire que on a une sorte de désir, de vision qui s'impose. Et à 15 ans, à 16 ans, il est extrêmement difficile dans certaines familles où les projections parentales ou les projections du milieu social peuvent être très fortes, de faire comprendre que ce désir est légitime.
Absolument.
Parce qu'on n'a pas les billes, on n'a pas les moyens, on n'a pas l'expérience pour prouver que, on n'a rien. En fait, on est pauvre à 15 ans. On a plein d'envie et on n'a pas beaucoup de moyens, on n'est pas armé pour.
Oui, il peut y avoir un sentiment de solitude, en fait.
Avec papa qui veut que vous fassiez polytechnique, avec maman qui dit non, mais c'est pas une profession pour les femmes. Enfin, voilà. Donc, je crois que c'est très important d'écouter un jeune qui a une vocation parce que c'est aussi le soutenir dans un sentiment qu'il peut avoir d'illégitimité. Parce que la peur de l'échec, elle est d'autant plus grande que vous sortez du chemin qu'on a tracé pour vous. C'est-à-dire quand on vous dit le fils aîné, il est médecin, donc tu feras médecine. Déjà, on a peur de rater. Mais si en plus on dit, bah non, je vais pas faire médecine parce que moi, je veux être photographe. On se dit, si je me plante, j'aurai vraiment tous les torts. Puisque j'aurai transgressé la projection familiale. Et en plus, je n'aurais pas prouvé que j'avais raison. Donc, je pense qu'ils ont vraiment besoin d'écoute, les jeunes, qui ont, même pour formaliser aujourd'hui leur vocation. Parce que parfois, ils l'ont, mais ils n'arrivent pas à la mettre en mots. Et je pense que c'est très important, cette écoute et le fait qu'on prenne au sérieux que, bah oui, leur potentiel à eux, leur valeur ajoutée à eux, leur personnalité fait que ce serait du gâchis de faire une école de commerce. Parce qu'en fait, c'est là-dedans, ils vont être moyens. Alors que s'ils suivent leur voie VOIX et VOIE intérieure, ils vont être probablement les meilleurs dans ce domaine parce qu'ils seront animés par l'amour de ce qu'ils font.
Exactement, et c'est le cas de beaucoup de lauréats d'ailleurs. Vous disiez tout à l'heure que les vocations peuvent se révéler tardivement. Or, j'ai l'impression que nous, à la Fondation, on est parfois un révélateur de vocation. C'est-à-dire que certains, en fait, en remplissant leur dossier, se rendent compte finalement que tout ce qu'ils ont accompli depuis 10 ou 15 ans, c'est le fruit en fait d'une vocation en construction. Et qu'elle en porte le nom. Mais eux ne mettent pas forcément ce nom là-dessus.
Ils n'en avaient pas conscience.
Ils n'en avaient pas pleinement conscience. Mmh. Et viennent nous voir en disant, en fait, on a regardé ce qu'on avait produit jusqu'à maintenant. Les parcours semés d'embûches, les obstacles qui ont été franchis les uns après les autres, sans jamais renoncer. Et ensuite, ce moment où la vocation est reconnue, par des personnalités, on va dire, hein, reconnues dans leur domaine, etc., ça leur donne évidemment cette force et cette légitimité dont vous parliez, qui leur donne des ailes. Et on voit une réelle transformation, en fait, quand ça c'est clairement acté, apprécié et reconnu. Et
oui, parce qu'ils se sentent à leur place.
Il y a un élan extra. Absolument, ils se sentent à leur place. Et ils se sentent non seulement à leur place, mais en plus investi de la confiance qui leur est accordée. Et c'est très puissant, en fait, de voir ça. Et parce que,
oui, donc vous leur dites, je te prends au sérieux, ce que tu veux faire est important, et je vais t'aider à en trouver les moyens.
Exact.
Donc vous construisez de la confiance.
Oui, je pense que le facteur de confiance est déterminant dans le processus.
Oui, c'est quand même plus sympa de se projeter dans sa vie professionnelle avec un peu de confiance que uniquement avec de la peur. Et ils sont quand même biberonnés à la peur, les jeunes d'aujourd'hui.
Oui,
la peur, l'incertitude économique, etc.
Exactement,
etc.
Il y a tous ces facteurs, évidemment, qui viennent compliquer les choix aussi. Il y a un phénomène d'autocensure, je pense, chez les jeunes, qui est assez puissant, selon les contextes, justement, culturels, socio-économiques, et d'idées préconçues sur certains métiers, parce qu'on parle parfois, par exemple, des jeunes de banlieue, qui auraient plus de difficultés d'accéder à certains métiers. C'est une réalité, mais l'inverse aussi, le politique technicien qui n'a pas envie de cette voie-là. Nous, on a par exemple un lauréat qui a fait polytechnique pour faire plaisir à ses parents, mais dont le rêve absolu était d'être berger. Alors, il a fait polytechnique, il a dit voilà, c'est fait.
Il a coché la case,
et aujourd'hui, il est berger. Et c'est un lauréat qui, quand vous l'appelez...
Il aurait été malheureux dans un ministère. Hein.
Mais je pense, et il est très, très heureux aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est être à sa place, en fait.
Oui.
Trouver sa place.
Comment est-ce que la Fondation de la Vocation, dont vous êtes déléguée générale, Sabine Van Venderen Badinter, comment la Vocation estime l'intensité, comment la Fondation estime l'intensité de la vocation des jeunes?
Alors, on a un système de sélection qui s'étend de janvier à octobre, donc c'est vraiment un long processus, des dossiers à remplir, à certains stades, des experts. Nous sommes accompagnés de 110 experts dans tous les domaines qu'on est amené à étudier, qui étudient ces dossiers avec nous, qui nous font font des fiches de rapport. Et puis après, c'est des heures d'échange avec, on va dire, les derniers 250 candidats sur plus de 1000 candidatures par
240 an. 240 candidats.
Oui, 240, ouais. Vraiment, on va dire, à la fin du processus de sélection.
Avec qui vous sur, échangez.
Oui, exactement, ouais. Sur plus de 1000 candidatures tous les ans. Et donc, c'est vraiment, on leur pose beaucoup de questions. Hein, le dossier est très dense. C'est la naissance de leur vocation, leur histoire personnelle. Et on va essayer d'apprécier. Alors évidemment, un certain, je dirais, on vise une forme d'excellence, même si c'est une excellence en devenir, mais on sent ça quand même. Et puis, tous nos lauréats en commun, c'est d'ailleurs une des conditions pour être éligible au prix, d'être confrontés à des difficultés financières. Nous ne sommes pas là pour célébrer les vocations, mais pour permettre à celles qui sont confrontées à des difficultés de poursuivre.
Qui ont un obstacle, notamment financier.
Exactement.
Uniquement financier ou.
En tout cas, financier.
Oui, financier, oui, oui.
Les problèmes les études, sont parfois voyage, multiples, oui. Mais en tout cas, financier.
Bah oui,
qui est vraiment une difficulté. Oui, ça peut être un stage à l'étranger, une poursuite d'études.
Payer un billet d'avion, un logement.
Oui, exactement. Ouais, exactement. Ouais. Ça peut être tout ça. Ça peut aussi être aider certains à équiper un atelier. Enfin, voilà, c'est assez, assez vaste. Et puis ensuite, je dirais que c'est peut-être les années de pratique où on voit quand même on voit dans les tripes quand les gens sont animés.
Et ça, vous le flairez. Vous le ressentez.
J'espère qu'on ne passe pas à côté de trop de candidats. Mais c'est pas simple. Mais quand on combine tous les éléments entre les retours d'experts et puis on les présente à un jury. Hein, à la fin, c'est le jury qui est maître.
Oui. Marie-Estelle Dupont, de quoi a besoin un jeune qui a une vocation ? De quoi a-t-il besoin ? Qu'est-ce qu'on peut en dire ?
Et bien justement, de cette écoute pour parfois avoir la force de se positionner par rapport à des projections familiales dont il sent que s'il suit la voie toute tracée qu'on lui fait dans la banque ou l'assurance, il va finir dépressif et en burn-out une fois par an. Mm-hmm. Et donc l'aider à le soutenir dans la légitimité de son désir, qui ne veut pas dire envoyer balader les parents parce que c'est de son âge et pour le plaisir d'envoyer balader les parents, mais qui veut dire là je sens qu'il y a quelque chose chez toi d'un potentiel qui cherche la bonne forme, le bon moule pour s'exprimer, mais que tu as tous les ingrédients pour faire quelque chose de construit, et que la rencontre entre les contraintes du monde extérieur et le désir intérieur que tu ressens va être féconde et donner lieu à quelque chose de réussi et de joyeux, comme vous dites. Je pense aussi que quand vous disiez ils ont besoin d'être écoutés pour ne pas s'autocensurer, qu'il y a une part d'autocensure, mais je crois que c'est même plus profond que ça. Il y a un rétrécissement de leur imaginaire et que les réseaux sociaux les mettent face à des modèles identificatoires qui n'en sont pas. Notamment des modèles qui assimilent la réussite à des métiers comme influenceurs et des choses incroyablement uniformisantes, répétitives, anonymes, où il n'y a pas de subjectivité, il n'y a pas de créativité, il y a des paillettes, il y a du toc, il y a beaucoup d'argent, mais il n'y a en fait rien d'une rencontre entre le monde intérieur et le monde extérieur. Et donc, il y a un rétrécissement du rêve et de l'imaginaire chez les jeunes. Nous, on a une association qui amène le rêve à l'hôpital, qui essaye de remettre en route chez les enfants malades. Là, dans le domaine de la maladie, il y a besoin de remettre l'imaginaire en route chez les jeunes aujourd'hui. Parce qu'on est dans une société de l'image qui a tendance à abraser l'imaginaire personnel. Or, c'est ces ressources de subjectivité qui permettent de dessiner son chemin professionnel. Et surtout de tenir bon quand c'est dur, parce que quand vous marchez dans les pas de quelqu'un d'autre, le chemin est toujours plus facile que quand vous tracez votre propre route. Donc, vous allez rencontrer l'adversité, vous allez rencontrer des gens pas sympas, qui n'ont pas réussi à accomplir leurs rêves et qui sont frustrés, qui vont vous dire tu vois, tu ne peux pas réussir. Au lieu de vous dire, là, c'est un obstacle, mais tu vas le surmonter. Donc, ils ont besoin d'être encouragés, ils ont besoin qu'on les renforce dans leur sentiment de légitimité, qu'on leur fasse comprendre qu'ils sont capables, qu'on discutent entre générations aussi, parce que avant eux, il y a d'autres gens qui ont écouté leurs rêves. Et c'est probablement ce qu'a fait Marcel Bleustein-Blanchet en s'accrochant à ce rêve qui lui a permis de survivre à toutes les horreurs qu'il traversait. Et je pense qu'ils ont besoin qu'on les aide à faire passer la vocation au stade du projet. C'est-à-dire comment j'implémente dans la réalité, comment je concrétise, et c'est ça que vous faites avec vos mécénats, etc., etc. Mais ils ont besoin qu'on leur fasse comprendre que ça se concrétise et que c'est pas quelque chose qui reste un rêve inaccessible quelque part dans la tête.
On est sur Europe 1, et si on en parlait avec Marie-Estelle Dupont, et aujourd'hui avec Sabine Van Vlenderen Badinter, déléguée générale de la Fondation de la Vocation Marcel Bleustein-Blanchet. On se retrouve dans quelques instants, restez bien avec nous sur Europe 1.
Marie-Estelle Dupont, Romain Desarbres.
15h, 16h sur Europe 1.
Auchan.
Et aujourd'hui alors, c'est quoi le bon choix moins cher?
Eh bien, chez Auchan, on fait le choix de vous proposer jusqu'au 17 janvier le lot de 6 kiwis verts pour seulement 2 euros. Et grâce à votre carte Wahoo, cagnottez en plus 10% le jour de votre choix sur tous les produits Fradéal.
2 euros les 6 kiwis? C'est qui va se régaler?
Auchan, le choix, le bon. Offre valable en magasin et drive, 45 centimes vendus seul, origine France, catégorie 1, calibre 85-95, jour Wahoo non valable le week-end, conditions en magasin et sur Auchan.fr.
Mesdames et messieurs, bienvenue à bord du nouveau SUV Citroën C3 Aircross et ses 7 places. Installez-vous confortablement dans votre siège Advance Confort et veuillez attacher votre ceinture. Nous vous souhaitons un agréable voyage.
Pendant les jours de l'évasion du 16 au 19 janvier, le nouveau SUV Citroën C3 Aircross est à partir de 199 euros par mois.
Citroën.
LLD 49 mois, 40 000 km, premier loyer de 2500 euros, offre à particulier jusqu'au 31 janvier sous réserve d'acceptation crédit par, détails sur citroën.fr selon réseau participant. Pensez à covoiturer.
Leclerc, bonjour.
Vous me confirmez la promo sur la brioche à Riz?
Tout à fait, moins 68% sur la deuxième.
Merci. Allez, aujourd'hui, c'est moi qui régale pour le goûter.
Ouais, ouais.
Faites plaisir à tous les gourmands, car du 13 au 24 janvier, pendant les super pouvoirs d'achat, pour l'achat d'un paquet de brioches tranchées à Riz pépites de chocolat, le deuxième est à moins 68%.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalités et magasins participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
Chez Orange, on sait que le porte-monnaie de Clara pendant les fêtes, il a...
Bien mangé.
Et elle ne serait pas contre?
Oh, des petites réductions.
C'est pour ça que du 7 janvier au 3 février chez Orange, pendant les soldes, il y a jusqu'à 60% de remise sur une sélection de téléphones neufs et reconditionnés, ainsi que sur des accessoires.
Et ouais, savourez, sans culpabiliser.
Orange est là.
Offre soumise à conditions, valable jusqu'au 3 février en France métropolitaine et jusqu'au 29 janvier en Meurthe-et-Moselle, Moselle, Meuse et Vosges. Conditions détaillées en boutique Orange et sur orange.fr.
Et si on en parlait avec Marie-Estelle Dupont, on est ensemble sur Europe 1, on parle aujourd'hui de la vocation et nous sommes avec Sabine Van Vlenderen Badinter, déléguée générale de la Fondation de la Vocation Marcel Bleustein-Blanchet. Restez bien avec nous sur Europe 1, à tout de suite.
Bonjour, c'est Stéphanie Demuru. La liberté d'expression, vous l'entendez sur Europe 1. Ouvrir le micro à toutes les opinions.
Stéphanie Demuru, Europe 1 Soir Weekend, du vendredi au dimanche, de 19h à 21h.
Europe 1.
La radio libre.
Aesio Mutuel présente.
Dis donc, tout en trop, c'est moi ou t'as pris du muscle?
Ah non, j'ai croisé Météos ce matin et vu ses prévisions, j'ai mis 8 toges.
Ah oui, mais enfin, Météos, elle débute, hein, elle n'est pas toujours fiable. Là, t'as chaud, non?
Parfois, il vaut mieux être bien couvert que trop couvert. Aesio Santé Essentielle, c'est la couverture santé simple et claire, recentrée sur ce qui vous sert vraiment et jusqu'à 20% moins cher que la concurrence. Aesio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Étude comparative réalisée par Minalea en 2025 sur des offres non responsables à prestations équivalentes. Détails et informations sur aesio.fr.
Qu'est-ce qui vous fait aimer les soldes? C'est de payer un survêt à vos enfants?
Pour aller au sport? Ou battre des records de bêtises avec leurs potes?
Chez Decathlon, durant les soldes, le haut ou le bas de survêtement Umbro Junior est à moins 50%, soit 18,99€ au lieu de 37,99€. Soldes selon date légale dans la limite du stock disponible.
Là, vous entendez? Et vous vous dites, tiens, le roi Merlin, ils vont sûrement me souhaiter une bonne année 2026. Et là, quand je dis « bonne année » et que j'ajoute que jusqu'au 3 février, il y a plein de bonnes affaires pour réaliser tous vos projets intérieurs au meilleur prix, là, vous vous dites « bonne année » et surtout « bon projet ».
Le roi Merlin, on peut tout construire ensemble, même l'avenir.
Voir produits et services concernés sur leroimerlin.fr.
Leclerc, bonjour.
Petit test avec votre Colin extra croustillant en promo.
Un test?
Attendez. Maman, t'as fait du poisson?
Test concluant, impossible de résister. Et du 13 au 24 janvier, pendant les super pouvoirs d'achat, pour l'achat de 2 paquets de Colin d'Alaska extra croustillant surgelé Findus, le troisième est offert.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalités et magasins participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
On peut penser que les voitures familiales sont réservées aux familles. Ou on peut se dire que les amis, c'est aussi la famille. Nouveau Dacia Jogger, la familiale jusqu'à 7 places réservées à tous. Découvrez-la à partir de 18 700 euros pendant les portes ouvertes du 15 au 19 janvier. Désormais disponible avec moteur hybride 155 chevaux.
Offre à particulier du 1er au 31 janvier pour Dacia Jogger Essential Eco G120, 9 hors option selon le tarif 2229,02 du 8 janvier 2026. Conditions sur Dacia.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Mais où peut-on trouver un blender Moulinex à 39,99€?
Oh, ce blender est vraiment génial!
J'ai pas tout compris, mais il a l'air de vous plaire.
J'adore!
Alors rendez-vous jusqu'au 25 janvier pour profiter de 50% d'économie sur le blender chauffant My Daily Soup Moulinex, soit 39,99€ au lieu de 79,99€. Dans vos magasins U et sur Course U.
Dont 2,46€ d'éco-participation, valable pour un retrait jusqu'au 25 janvier. Prix conseillé par coopérative U ou magasin U participant. Conditions sur magasin-u.com.
Europe 1, le journal permanent.
Le journal permanent avec vous, Émilie Dez.
Sébastien Lecornu promet de généraliser dans le budget final les repas universitaires à 1 euro. C'était une demande spécifique du PS. Le Premier ministre abat ses dernières cartes pour arracher un accord sur le budget. Il va prendre la parole en fin de journée. Sébastien Lecornu, résigné à une adoption du texte sans vote, va-t-il recourir au 49-3 ou aux ordonnances? Le Premier ministre se laisse jusqu'à mardi pour trancher. C'est ce jour-là que les débats doivent reprendre à l'Assemblée. Ils sont pour le moment suspendus. Si Donald Trump attaque le Groenland, il fait exploser l'OTAN, assure le député Sylvain Maillard sur Europe 1 et CNews. Le président américain convoite le territoire arctique, menace même de l'annexer par la force. L'envoi de militaires au Groenland vise à envoyer un signal à tout le monde, y compris aux États-Unis, annonce la ministre déléguée aux armées françaises. Les Européens déterminés à défendre leur souveraineté. Donald Trump a fait savoir que le déploiement de militaires dans le territoire arctique n'avait aucun impact sur son objectif. 4 ans de prison, dont 3 avec sursis, ont été requis contre l'Iranienne Mahdi Esfandiari. Elle est jugée pour apologie du terrorisme. L'Iranienne de 39 ans, installée en France depuis 2018, pourrait servir de monnaie d'échange contre les Français Cécile Kohler et Jacques Paris, retenus en Iran depuis plus de 3 ans. Le ministère de l'Éducation annonce l'ouverture d'une enquête administrative après le suicide mardi d'une lycéenne de 17 ans en Seine-et-Marne. Elle était, selon sa famille, victime de harcèlement scolaire depuis décembre. L'adolescente a été mortellement percutée par un RER. Elle s'est volontairement donné la mort, indique le procureur de la République de Meaux. Julio Iglesias sort du silence. Il dénonce des accusations absolument fausses de deux ex-employés, des employés qui ont porté plainte en Espagne pour délits sexuels et traite d'êtres humains, des faits qui se seraient déroulés entre janvier et octobre 2021. Et puis la Poste américaine a dévoilé aujourd'hui un timbre hommage au boxeur Mohamed Ali. Il y apparaît point en avant. Le timbre a été imprimé à 22 millions d'exemplaires. Mohamed Ali, triple champion du monde des poids lourds, il est mort en juin 2016 à l'âge de 74 ans.
Merci Émilie Dez, on vous retrouve dans une demi-heure à 16h.
Marie-Estelle Dupont,
15h, 16h sur Europe 1.
Romain Desarbres.
Et si on en parlait, on est ensemble sur Europe 1 avec vous Marie-Estelle Dupont. On parle de la vocation, des vocations professionnelles et on est avec Sabine Van Vlaanderen Badinter, déléguée générale de la Fondation de la vocation Marcel Blanchet. Vous y faisiez allusion dans la première partie de l'émission, Marie-Estelle Dupont, la nouvelle approche que les jeunes et qu'on a du travail. Est-ce que la notion de vocation a évolué avec cette nouvelle approche qu'on a du travail ?
Ce qu'il y a, c'est que la question du sens, elle est beaucoup plus au cœur du rapport au travail. On a eu une évolution de l'organisation du travail progressive depuis le XVIIe siècle. C'est-à-dire que si on regarde, par exemple, dans l'Antiquité chez les Grecs, c'est ce que rappelle Hannah Arendt, la philosophe Hannah Arendt dans la condition de l'homme moderne. Elle dit chez les Grecs, le travail, il était plutôt méprisé. C'est-à-dire que c'était les esclaves et les femmes qui travaillaient parce que c'était la nécessité. Le travail était strictement la nécessité alimentaire. Et puis, à un moment donné, avec notamment la révolution industrielle, le travail, l'émergence de la bourgeoisie, le travail est devenu central. Le travail est devenu le prestige social. La réussite est très importante. On s'identifie à sa profession. Avant ça, les corporations sont déjà très soudées. Donc, il y a une espèce de solidarité entre gens de la même profession. Donc, le travail va devenir très important. Et puis, il y a à nouveau un palier, c'est-à-dire qu'à partir des années 70, avec cette société quand même qui se définit de manière extrêmement matérialiste et extrêmement individualiste, avec cette course à l'image, avec cet individu qui prime sur le collectif, il y a des répercussions, il y a des effets papillons sur le rapport au travail et sur l'organisation du travail. Et notamment, avec la société de consommation de masse, de divertissement de masse, il y a une désacralisation du travailleur. En fait, le travailleur est interchangeable. D'ailleurs, on voit bien comment la mondialisation accélère l'utilisation de l'immigration comme un levier de rentabilité pour les entreprises. C'est beaucoup de main-d'œuvre facilement, facile à déplacer, facile à faire venir et qu'on peut payer pas très cher. Donc, en fait, la notion de travail, elle évolue. Et bien évidemment, l'envers de ça, ou l'autre versant de ça, c'est que de plus en plus, dans les jeunes générations, on dit, mais attendez, quel est le sens du travail ? Parce que si les organisations, avec un management très infantilisant, avec une interchangeabilité, alors que quand même, il y a 50 ans dans les entreprises, les places étaient respectées, il y avait quelque chose dans la hiérarchie qui fonctionnait, dont on n'attendait pas d'ailleurs d'être tout dans l'épanouissement de quelqu'un, mais où quelque chose du respect des places de chacun était là. Et cette interchangeabilité fait énormément souffrir psychiquement l'individu qui aujourd'hui dit « Non mais moi je veux que ce que je fais ait du sens ». Et donc la pathologie de la modernité, c'est le burn-out, qui est une maladie du sens, pas une maladie de la charge de travail, enfin pas seulement en tout cas. Paradoxalement, on se retrouve en fait à dire la technique va nous libérer du travail, mais finalement c'est la consommation qui envahit tout et qui nous rend esclaves, et donc on se retrouve dans un travail qui parfois est un bullshit job, disons-le. C'est-à-dire qu'aujourd'hui dans notre société, on va très mal payer les gens qui s'occupent des petits, les gens qui s'occupent des personnes âgées, donc de tous ceux qui sont vulnérables, les enseignants, les infirmiers. Par contre, vous allez payer des fortunes, des types qui sont de parfaits ignorants, arrogants, dans des cabinets à la Défense, à produire des bullshit slogans et du marketing dans lequel on va tous plonger le week-end d'ailleurs, parce qu'on va faire des achats inutiles. Donc il y a une évolution du monde du travail, du sens du travail, et donc évidemment, les jeunes se projettent différemment de nos aînés dans le travail. Ils veulent que ça ait du sens, donc ça remet la question de la vocation au cœur. C'est-à-dire, si je sens pas que c'est aligné avec mes valeurs, j'ai pas envie d'y aller. Je vais pas y aller parce que mon milieu social dit que le fils aîné dans ce milieu fait ça. Non, j'y vais parce que il y a quelque chose qui résonne à l'intérieur de moi. Et je pense qu'en fait, dans l'organisation de l'institution scolaire aujourd'hui, c'est très difficile, notamment avec la réforme du bac, les choix d'options, etc., pour les jeunes, de se retrouver. Et que donc des initiatives comme cette fondation a tout son sens, parce que c'est des initiatives de la société civile qui viennent pallier un manque dans le collectif, qui est un manque de réponse en fait. Parce que un jeune qui a une vocation, il a surtout des questions. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Oui, je pense, comme vous le dites, l'école est peut-être pas forcément aujourd'hui le meilleur endroit pour trouver des réponses, parce que il y a aussi un sujet de source d'inspiration. Nous, c'est vrai que c'est un de nos axes de développement en 2026. C'est un projet qu'on va développer avec le ministère de l'Éducation nationale, et c'est d'envoyer nos lauréats en tant qu'ambassadeurs de vocation dans les écoles, notamment au collège, pour donner des sources d'inspiration à ces jeunes collégiens pour qu'ils s'autorisent éventuellement à rêver et à poursuivre dans certaines voies qui sont peut-être pour certains inhabituelles, ou en tout cas quand ils manquent de soutien dans leur environnement proche. Et puis il y a un lien évident avec le travail aussi, c'est-à-dire que quand on a trouvé ce pour quoi on était fait, on ne compte pas les heures.
Oui.
Le travail n'est plus du travail, le travail devient un travail plaisir. Donc à force de faire, vous finissez par être bon.
Bah oui.
Quand vous êtes bon, vous interpellez les
plaisir.
Autres.
Oui, et puis
il y a du plaisir personnel.
Et on ira dit.
Donc évidemment, on rayonne à titre personnel, mais on rayonne aussi dans une famille, on rayonne dans une communauté, on donne envie, on partage, parce qu'il y a la question de la transmission aussi dans, je dirais, l'éducation au sens large. Et voilà. Exceller, faire, c'est aussi la garantie de pouvoir transmettre. Et pouvoir transmettre, c'est aussi la garantie que les métiers perdurent, qui continuent. On a des lauréats campanologues qui sont les spécialistes des cloches. On a des lauréats
des joailliers,
des lauréats spécialistes du patrimoine de pierre, de
souffleurs de verre,
des souffleurs de verre. Enfin, il y a vraiment
un ingénieur à la NASA.
Il y a absolument Alan Petre, un ingénieur à la NASA. Ouais. Lui, il était à 3 semaines de ne pas pouvoir partir. Ouais. Sans financement d'une fondation ou d'un gouvernement, son stage à la NASA n'était pas possible.
Et aujourd'hui, partir... c'est un Français installé à la NASA. Ouais.
Exactement. En tout cas, c'est un Français qui, voilà, ingénieur en aérospatial, qui est parti à la NASA, qui va maintenant faire un doctorat, mais qui est rentré en France aussi. Mais c'est souvent cette question qui nous est posée. Vos lauréats qui partent aux quatre coins du monde, est-ce qu'ils reviennent? Alors, je rassure.
Bonne question.
Je rassure ceux qui nous écoutent.
Parfois, ils rentrent à la maison.
Beaucoup reviennent. Et Alan, par exemple, fera partie de ces jeunes lauréats qui iront dans les écoles.
Ah oui.
Et puis avec ce qui est formidable, je pense, c'est ce sont des jeunes qui ressemblent à leur audience. Mmh. Voilà, c'est pas une sorte d'ordre qui vient du dessus. Intéressez-vous à tous les métiers. Ce sont des gens qui leur ressemblent et auxquels on peut donc s'identifier plus facilement. Mais voilà.
Lui, c'est un destin extraordinaire. Vous pouvez peut-être nous en parler un petit peu plus d'Alan.
Oui, alors Alan, il a toujours voulu être ingénieur en aérospatial. Il a eu un parcours d'études. Enfin, il a dû prendre des voies un petit peu détournées parce qu'il a dû cumuler des stages. Il vivait entre deux villes assez éloignées les unes des autres. Donc, il a fait ça aussi en alternance parce que c'était une nécessité financière de le faire en alternance. Et voilà, il a envoyé ses candidatures, on va dire, de manière relativement spontanée à la NASA au moment des stages. Ses résultats étant très très bons. Et puis il avait un parcours aussi, je dirais, qui dénotait d'une forme de détermination et de courage. Il travaillait le week-end, il travaillait la nuit. Enfin, je dirais, rien n'était trop pour aller jusqu'au bout de son rêve.
Venant d'un milieu, comment vous le qualifieriez
Écoutez, il a grandi dans une banlieue à côté de Paris. Je sais que son papa, c'est une histoire assez merveilleuse, a passé un diplôme d'ingénieur, mais sur le tard,
ouais.
Je dirais quasiment en fin de carrière,
ouais.
Dans une famille vraiment dans un soutien, voilà, très 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 aimante, etc.
Ouais.
Mais pas, je dirais relativement modeste.
Ouais, ouais,
voilà.
Ouais, ouais.
Ouais.
Et avec un destin, voilà.
Oui, formidable, formidable. Et puis animé par une passion extraordinaire. Extraordinaire.
Sur la quête de sens dont parlait Marie-Estelle Dupont à l'instant, vous la constatez chez les jeunes qui déposent des dossiers. Y a une quête de sens qui est plus importante qu'il y a quelques années.
Écoutez, je pense que la quête de sens, elle est omniprésente en fait. Alors c'est peut-être plus précis dans certains domaines. On parlait de climat tout à l'heure, d'environnement. Dans ces dossiers-là, on sent une sorte d'urgence qui caractérise en général ces destins. Mais je dirais que pour tous. C'est presque une évidence. Enfin, c'est un chemin dont ils ne peuvent pas se détourner. Donc, le sens, il est là-dedans aussi. Il est dans le métier, mais il est aussi dans cette nécessité d'aller jusqu'au bout de quelque chose qu'ils ont ressenti comme étant essentiel pour leur bonheur et pour une existence réussie, je dirais.
Je crois qu'il y a, en fait, là, il n'y a pas de quête du sens. Il y a une évidence. Il y a une rencontre.
Exactement.
C'est une évidence. Donc, de toute façon, c'est une nécessité d'écrire, c'est une nécessité de faire des photos, c'est une nécessité d'eux.
Ils ne peuvent pas s'en détourner.
Et donc,
en fait,
chez eux, il n'y a pas la quête de sens. L'évidence a jailli. Ce qui est difficile, c'est de négocier cette évidence intérieure avec peut-être des peurs ou des attentes familiales. Et il y a des familles qui disent c'est dur pour nous, la vocation de notre enfant, parce que ça va l'éloigner de nous, parce que ça veut dire. Expliquer à ses frères et sœurs que on va financer un projet très cher pour lui et que il y aura peut-être pas une égalité parfaite entre tous les frères et sœurs, mais on sent qu'on doit le soutenir. Ou justement, il y a quelque chose de mon enfant qui m'échappe et ça me fait très peur. Là, je pense particulièrement à des familles où c'est des appels vers la vocation religieuse ou militaire, le sentiment qu'ils ont, voilà, s'ils accordent à l'enfant du crédit à sa vocation, ils ont peur de perdre l'enfant. Mais c'est aussi le cas quand un enfant veut partir au bout du monde pour étudier les baleines, je sais pas où, hein. Je crois qu'il y a un travail à faire sur l'angoisse de perte, parfois, de la part des familles. Et puis, à contrario, des vocations qui réalisent le rêve refoulé d'un parent aussi, hein.
Qu'est-ce que vous pouvez en dire, ça, Marie-Estelle Dupont? C'est intéressant, ça.
Oh, bah, l'enfant qu'on destine à la banque et qui a un talent en peinture et qui veut être peintre et qui va de manière inconsciente, trouver un soutien à une alliance avec sa mère qui ne s'est jamais autorisée à peindre, mais qui rêvait de devenir peintre et qui, quelque part, a transmis ce rêve à son enfant. Alors, est-ce que c'est aliénant ou est-ce que c'est un épanouissement pour l'enfant ? C'est l'avenir qui le dira. Mais finalement, là, la famille va se mettre du côté de l'inconscient de l'enfant qui réalise un rêve qui n'a pas été justement une injonction, une projection, mais qui est finalement peut-être un talent qui était à l'état de germe dans la famille et que l'enfant... On retrouve d'ailleurs parfois chez nos enfants des talents de nos grands-parents. Et on se dit, c'est drôle, ça a sauté une génération. Mon enfant, alors que je suis nulle pour faire ça, mon enfant est très doué et ça me rappelle tel grand-parent. Et parfois, l'enfant va être appelé vers cette voie parce qu'il sent quelque chose d'un héritage intérieur qui grandit en lui. Donc en fait, la famille peut être dans deux polarités très très opposées face à la vocation. La résistance totale, non mais tu sors du chemin qui est convenu, qui est bien, qui est lisse, tu vas te planter. Moi, quand j'ai dit que je voulais être psychologue alors qu'on me voyait faire de la banque, ça a quand même été très compliqué de l'expliquer à mon père qui, après coup, était content pour moi. Mais sur le moment, il avait que des craintes. C'est pas un métier dont on vit, etc., etc. Vous voyez, il y a des destins heureux. On finit avec Romain Desarbes l'après-midi. Donc, même pour les psys, le salut est possible.
Même quand on dit « je vais devenir journaliste », parfois, je pense qu'il y a certains parents qui disent «
on finit sur le divan ».
Il va terminer saltimbanque ou... journaliste, ça a lieu avec
ça fait quoi
jongleur.
Et puis, ouais. À contrario, des familles qui, en fait, vont soutenir le rêve de l'enfant, ouais. Familles de navigateurs, des familles qui vont avoir cette ouverture intérieure il est bon que l'enfant réalise sa destinée, et on est juste là pour l'outiller, mais pas pour choisir à sa place sa destinée.
Oui, puis il y a la question de l'inconnu. Quand on est fils ou fille de navigateur, par exemple, c'est le terrain a été déjà un petit peu
préparé.
Préparé. Oui. Exactement. Donc, je pense que la peur de l'inconnu, c'est aussi souvent un frein et un obstacle majeur. Et pour certains, c'est vraiment l'inconnu. C'est-à-dire,
alors, c'est
ne
drôle
pas
parce
avoir
que moi, c'est une question que je me suis jamais posée. C'est-à-dire que à 11 ans, je savais que je voulais être psy. Et je n'ai jamais. Tout le monde m'a dit, mais tu vas crever la dalle. Les psys gagnent pas un rond. Il faut faire un truc qui te sécurise. Et en fait, je n'ai jamais eu peur de manquer de passion. Et je n'ai jamais manqué. J'ai toujours eu trop de patience dès le début. Donc je pense aussi qu'on crée ce qu'on craint et que parfois nos peurs nous empêchent d'accomplir notre vision et que si notre vision est suffisamment forte, on finit. Moi je sais que j'ai une amie qui a failli tout abandonner et repartir dans sa ville d'origine. Et puis au dernier moment, elle a fait la bonne rencontre qui lui a permis de trouver toute la clientèle dont elle avait besoin pour accomplir son rêve et en vivre.
Comment ça se détecte? Je pense aux parents qui nous écoutent, aux parents d'adolescents, voire même de très jeunes, ou d'adolescents, ou d'adolescents plus, on va dire, entre adolescents et adultes. Comment ça se détecte, quand on est parent, une vocation chez des enfants?
Dans quoi vous sentez votre enfant heureux? Dans quelle activité, spontanément, votre enfant va se mettre et vous le sentez qui est libre, qui est différent? Qui est libre, vous avez l'impression qu'il ne faut pas intervenir parce que vous vous sentez comme dans quelque chose qui vous est inconnu, mais que lui maîtrise déjà, il explore la musique alors qu'il n'a pas fait de solfège, etc. etc. La vocation, c'est vous allez sentir cette évidence entre l'enfant et un domaine ou une qualité très forte chez lui que peut-être il ne s'autorise pas à mettre en avant parce qu'elle n'est pas valorisée scolairement. Et là, je crois que c'est important de l'encourager et lui dire qu'il n'y a pas que les matières scolaires qui ont de la valeur. Les matières scolaires, elles ont des notes, mais elles n'auront pas forcément de la valeur toute dans son futur. Et de l'aider à faire des expériences. C'est-à-dire que d'emmener nos enfants dans autre chose que la routine scolaire, etc., ça peut être simplement en allant à la campagne, avoir un autre mode de rapport au travail, un autre mode de vie. C'est pas forcément des voyages extraordinaires, mais exposer l'enfant à des expériences et vous sentez assez jeune dans quoi l'enfant est à l'aise ou pas. D'ailleurs, même des jumeaux, hein, dans une situation similaire, il y en a un qui il l'a jamais fait. Vous avez l'impression qu'il est dans ses chaussons, qu'il va vous expliquer le métier. Et puis il y en a un autre, ça l'attire pas du tout. Il dit non, moi je veux pas toucher, c'est pas propre. Donc, je pense qu'en observant l'enfant, vous sentez les appétences de votre enfant. Et je crois que l'enfant est heureux quand il fait ce pour quoi il est doué. Ça veut pas dire qu'il aura pas des compétences techniques à apprendre, mais qu'il y a un talent. Vous savez, c'est ces enfants qui rejoue un morceau parfaitement alors qu'ils n'ont pas encore fait le solfège et le professeur se demande comment, sans passer par la grammaire de la musique, il réussit si facilement. Cet enfant a certainement un talent qui va le rendre très heureux s'il continue.
Mais alors la vocation, c'est une évidence, c'est ça, Sabine Van Vlaanderen, Badinter, c'est ce que vous diriez également, c'est ce
que
vous
nous décrivez, Maria,
c'est
ça s'impose,
c'est une évidence, mais pas forcément jeune.
Oui. Ça s'impose, mais ça nécessite quand même un certain nombre de paramètres pour pouvoir éclore pleinement.
Et se dire.
Parce que la route est longue. Je pense que la vocation, elle s'inscrit dans le temps long. C'est pas un feu de paille, c'est pas une passion passagère. C'est vraiment, on tire le fil de la vocation. Donc voilà, il y a un certain nombre quand même vous parliez des rencontres, de l'accompagnement, de l'écoute. Et rencontrer en effet quelques personnes qui vous font confiance et qui vous permettent de continuer à tracer ce sillon, même quand parfois on se sent un petit peu seul. Et puis pour la question des parents, je pense que si on peut continuer à éveiller la curiosité des enfants, c'est déjà formidable. Et puis après, essayer d'être le moins possible dans le jugement, ça n'est pas une mince affaire, mais essayer d'accueillir toutes les propositions que les enfants font, quelles qu'elles soient, et puis je dirais enfants et bien plus tard aussi, en fait. Toutes les vocations ne se révèlent pas à 8 ans. Hein. Nous, on a des lauréats chez qui ça a été à 6 ans, un jeune russe a entendu au fin fond de sa Sibérie natale du saxophone, et depuis là, ça a été un long chemin vers Moscou, de Moscou à Paris, et puis maintenant une carrière internationale. Mais voilà, c'est pas donné à tout le monde, donc il faut accepter ce temps long.
Je pense que c'est important de ne pas mentir à nos enfants et de leur demander s'ils sont sûrs que de cette vocation, ils veulent faire un métier. Par exemple, quand on rêve d'être danseuse étoile, je crois que c'est très important d'expliquer aux petites filles, concrètement, quand tu auras passé tous les examens, que peut-être tu sortiras du corps de ballet qui est très exigeant. Est-ce que tu es sûre d'avoir envie au quotidien de t'entraîner tant d'heures par jour, est-ce que tu es sûre d'être consciente que à 35 ans, ta carrière, elle devra s'arrêter et tu devras travailler autrement. Donc je pense qu'on ne doit pas mentir à nos enfants sur l'écart qu'il y a entre un appel et les conséquences en tant que métier. Quand vous avez la vocation d'être restaurateur, il faut avoir conscience que vous ne passerez pas les fêtes en famille et que vous travaillerez le week-end et que vous finirez tard. Donc je pense que la conversion dans le réel, nos enfants n'y ont pas accès sans nous, et qu'il faut leur expliquer concrètement, d'où l'importance de parler avec des bâtons. Écoute, ta tante, elle fait ça, elle va te raconter comment ça marche, parce que parfois, ils se heurtent à des épreuves de réalité qui sont douloureuses, notamment la danse classique et le sport. Ils peuvent avoir des blessures très grandes parce qu'ils sont assez jeunes dans un monde ultra compétitif, et là, je crois qu'ils ont vraiment besoin d'être soutenus par leurs parents.
C'est vrai que dans certains métiers, il y a d'énormes efforts à faire. On parle de effectivement l'exemple de la danseuse, mais il y a énormément de métiers. Ça, vous l'avez constaté également.
Je dirais que tous font des efforts. Ceux que nous on rencontre, ils déploient une énergie exceptionnelle
pour
arriver.
Des très gros bosseurs, c'est ça ?
Des très gros bosseurs investis. Et puis quand on combine les difficultés matérielles et une vocation. C'est compliqué. La route est complexe parce que beaucoup cumulent 2-3 emplois pour survivre, pour payer les charges, etc., les frais de scolarité, les stages à l'étranger quand c'est nécessaire. Donc en fait, voilà, je trouve qu'ils sont, enfin moi, ce sont des parcours admirables, quoi, de détermination et de courage vraiment hors normes. Oui, vraiment. Non. Et puis je dirais que quels que soient les métiers, qu'ils soient scientifiques, manuels ou autres, ils ont tous ça en commun.
Ouais. Sabine Van Vlaanderen Badinter, déléguée générale de la Fondation de la Vocation Marcel Bleustein-Blanchet. Je vois l'heure qui tourne. Ça serait peut-être intéressant que vous nous expliquiez, parce que je pense à tous ceux qui vous écoutent et qui se disent, tiens, mais comment je pourrais m'inscrire ? Parce que je connais quelqu'un qui a une vocation et qui a besoin
Bien
d'un
sûr.
Petit pouce. Comment faire pour s'inscrire ?
Alors, il suffit de se rendre sur notre site internet, fondationdelavocation.org, et depuis le 1er janvier jusqu'au 31 mai, jusqu'à minuit, 31 mai, vous pouvez déposer un dossier dossier de candidature qui se compose à un premier stade vraiment d'une lettre de motivation et d'un CV. Et une fois que cette première étape est franchie, on vous donne la possibilité de remplir un dossier bien plus complet avec tous les éléments dont je parlais tout à l'heure sur leur histoire, la naissance de la vocation, la description du projet en cours, budgété, tout ça. Enfin bon, quand on en sera là, je pourrais leur en dire un peu plus, mais ouais. C'est fondationdelavocation.org.
Fondationdelavocation.org. Marie-Estelle Dupont, une belle émission sur la vocation.
Hein. Merci beaucoup Sabine, c'était
merci
magnifique.
À vous. Merci beaucoup.
J'entends la petite musique voilà, que Rémi, le réalisateur, a envoyée. Ça veut dire qu'on aperçoit la fin de l'émission. Une annonce Europe 1. Elliot Deval vous donne rendez-vous chaque vendredi de 11h30 à 13h et le week-end, samedi et dimanche, dès 11h. Elliot Deval vous invite à débattre en direct avec ses chroniqueurs, avec ses invités, sur tous les sujets d'actualité. Elliot Deval et vous, de 11h30 à 13h le vendredi et de 11h à 13h le week-end sur Europe 1, la radio libre. Nous, on se retrouve
lundi
pour une émission à 15h. Et puis le samedi, il y a les meilleurs moments. Tous les samedis, entre 15h et 16h, les meilleurs moments de la semaine.
Dès demain, le best-of.
Voilà, et dans un instant, c'est Pascal Pro et vous, avec Pascal Pro et tous ses invités. Merci beaucoup, Sabine Van Vlenderen.
Merci à vous, merci de m'avoir reçu.
D'être venu sur Europe 1. Dans ici, on en parlait avec Marie-Estelle Dupont. Belle fin d'après-midi sur Europe 1.
Carrefour. Quand vous me dites les bons d'achat, c'est le petit coup de pouce qui tombe bien. Eh bien, avec votre carte Club Carrefour, profitez de 8 euros offerts en bons d'achat tous les 20 euros d'achat sur les produits d'hygiène et de beauté, même en promotion. Et c'est jusqu'à dimanche dans vos hypermarchés Carrefour.
Carrefour, on a tous droit au meilleur.
Bon d'achat valable du 19 janvier au 8 février. Hors papier toilette, coucher incontinence, petit électroménager beauté et parapharmacie. Détails sur carrefour.fr.
Qu'est-ce qui vous fait aimer les soldes? C'est de courir les magasins à la recherche de la bonne affaire? Alors du coup, autant avoir de bonnes baskets. Chez Decathlon, durant les soldes, les chaussures Puma, court, homme ou femme, sont à moins 50%, soit 34,99€ au lieu de 69,99€. Soldes selon date légale dans la limite du stock disponible.
Aesio Mutuel présente.
Dis donc, tout en trop, c'est moi ou t'as pris du muscle?
Ah non, j'ai croisé Météos ce matin et vu ses prévisions, j'ai mis 8 toges.
Ah oui, mais enfin, Météos, elle débute, elle est pas toujours fiable. Là, t'as chaud, non?
Parfois, il vaut mieux être bien couvert que trop couvert. Aesio Santé Essentielle, c'est la couverture santé simple et claire, recentrée sur ce qui vous sert vraiment et jusqu'à 20% moins cher que la concurrence. Aesio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Étude comparative réalisée par Minalea en 2025 sur des offres non responsables à prestations équivalentes. Détails et informations sur aesio.fr.
C'est les soldes chez But. Et le souci avec votre ensemble matelas sommier astucieux qui passe de 789,99€ à 399,99€, c'est qu'il faudra quand même en sortir tous les matins.
But. Et votre maison bat plus fort.
Dans la limite des stocks disponibles, conditions en magasin sur but.fr.
Envie de vous offrir la qualité allemande à prix Opel?
Yes, of course.
Une Corse avec Apple CarPlay et Android Auto?
Yes.
À partir de 15 900€ et jusqu'à 8 ans de garantie spéciale offerte,
yes.
Rendez-vous en concession pendant les portes ouvertes pour vous offrir Opel Corsa.
Yes.
Offre réservée aux particuliers sur Corsa édition 100 chevaux. 5 000€ déduits non cumulables jusqu'au 31 janvier dans le réseau participant. Garantie spéciale Opel, détails sur opel.fr. IS égale oui, pensez à covoiturer.
L'info en continu, c'est sur Europe 1.
Boulanger. Tu préfères savoir voler mais uniquement à 3 cm du sol?
Ouais.
Ou bien pouvoir voyager dans le temps sans pouvoir choisir la date?
Je préfère les sols Boulanger.
On préfère tous les soldes chez Boulanger. Des centaines de bons plans et le bon choix. Comme la TV 65 pouces mini LED TCL à 599€ au lieu de 799. Et optez pour le service livré, fixé, connecté.
Boulanger, plaisir partagé.
Jusqu'au 3 février, modèle 65C69K, 15,20€ d'éco-participation. Conditions, boulanger.com.
En exclu, mon itinéraire pour trouver les meilleures affaires pendant les soldes.
Non, mais faut arrêter de se compliquer la vie. Une seule destination, les soldes Conforama. C'est jusqu'à moins 70% avec la deuxième des marques. Et avec la carte Confo Plus, tu as moins 10% supplémentaire sur le meuble et la déco déjà soldés. Pourquoi aller ailleurs? Valable selon date des soldes et dans la limite des stocks.
Là, vous entendez? Et vous vous dites, 2026, les bonnes affaires, le roi Merlin reprennent. Et alors là, quand je dis que jusqu'au 28 février, la pose de votre poêle à boire et à granuler par notre partenaire Cabane est à 1€ seulement, Là, vous vous dites, 2026, ça envoie du bois.
Leroy Merlin, on peut tout construire ensemble, même l'avenir.
Informations sur Kaban.com. Pour des conseils neutres et gratuits, contactez France Rénov.
Auchan.
Et aujourd'hui alors, c'est quoi le bon choix moins cher?
Eh bien, chez Auchan, on fait le choix de vous proposer jusqu'au 17 janvier des gambas à 6,99€ le kilo. Et grâce à votre carte Wahoo, cagnottez en plus 10% le jour de votre choix sur tous les produits frais des Halles. Auchan, le choix, le bon. Gambas tropicales entières cuites réfrigérées, Panaïus vanameille, élevées en Équateur, 30 à 40 pièces au kilo. Liste des magasins Auchan avec un rayon marée sur Auchan.fr. Jour Wahoo non valable le week-end, conditions en magasin et sur Auchan.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
Et vous, il n'y a que Poltrone Sofa qui transforme les soldes
en or.
Sur la collection 3 pour vous, faites des affaires en or avec 50% de remise, plus 20% supplémentaire et plus 10% encore.
Ce sont les triples soldes en or.
Jusqu'à demain, uniquement chez Poltrone Sofa.
Poltrone Sofa,
solo divani di qualità.
Et voilà.
Uniquement des canapés de qualité. Vérifiez conditions en magasin.
En janvier, c'est décidé, je me remets au sport. Alors pour garder le rythme, il y a Kia Sportage, le SUV hybride offrant jusqu'à 945 km d'autonomie, un maximum.